C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Cet hiver, à l'Institut pastoral des Dominicains, Madame Hélène Champagne donnait un cours sur l'espérance. Et c'est en ces mots qu'elle introduisait ce cours. Pour développer notre vie spirituelle, nous cherchons à vivre pleinement le temps présent, l'ici et maintenant. Mais comment ne pas nous laisser enfermer dans l'immédiat et l'éphémère? À quelle profondeur, à quel avenir nous ouvre notre présent? Qu'est-ce qui nous tire en avant, nous mobilise, nous pousse à aller plus loin, à croire en plus et mieux? En vérité, quelle est notre espérance? Et comment colore-t-elle notre vie spirituelle? Les chrétiens parlent d'une espérance qui les porte en même temps qu'elle les engage librement. Quelle espérance nous transforme au quotidien, nous soutient dans les temps difficiles, nous donne d'être créateurs et audacieux. Enracinée dans la vie humaine, l'espérance nous invite à dépasser nos certitudes. Elle nous ouvre une porte sur l'inconnu. L'espérance est un risque audacieux. L'espérance est peut-être le plus beau témoignage des chrétiens pour aujourd'hui. Évidemment, nous n'aurons pas toute la richesse du cours de Madame Champagne aujourd'hui, mais au moins nous aurons une conversation qui essaiera de répondre aux quelques questions qu'a posées Hélène Champagne à ses étudiants de l'Institut pastoral. Ce que vous entendrez aujourd'hui dans cette émission sera la première de deux émissions. Nous aurons donc le plaisir de recevoir à nouveau notre invité à notre microphone la semaine prochaine. Nous accueillons donc avec plaisir Madame Hélène Champagne. Madame Hélène Champagne, bonjour.
Bonjour.
D'abord, je veux vous remercier d'être là pour répondre à nos questions sur un sujet qui vous préoccupe et pour lequel vous avez donné un cours à l'Institut de pastoral cet hiver.
Et, oui, effectivement.
Oui, et j'ai nommé l'espérance. Mais pourtant, l'espérance me semble être une attitude moins populaire, je dirais. Peut-être pas très à la mode. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Quand j'ai commencé à préparer le cours sur l'espérance, puis à réfléchir sur la question, à méditer sur la question, c'est ce qui m'a frappé d'abord. Combien l'espérance n'avait pas l'air très à la mode. On parle d'une sorte de désillusion. Hein? Mm-hmm. Je pense dans la société, il y a une désillusion sociale, il y a une désillusion économique, il y a une désillusion politique. On pense par exemple à chaque moment d'élection, ça sera peut-être bientôt le cas,
oui.
On se dit bon, les jeunes ne participent plus, les jeunes ne savent plus pour qui voter, on ne croit plus tellement au système politique, on se dit que ça revient du pareil au même. On a perdu, l'esprit de croire qu'un meilleur est possible. On est un peu blasé. Finalement. Oui. Au niveau économique, on annonçait une récession, on attend la reprise, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a reprise? On n'est pas certain. Et puis, financièrement, économiquement, on se retrouve aussi dans une espèce de marasme, on pourrait dire, hein, où on n'a pas trop d'enthousiasme par rapport à l'avenir. Oui. Même chose au niveau social. On se dit c'est du pareil au même. Les pauvres restent pauvres. Est-ce qu'il y a vraiment des changements dans la société qu'on peut espérer? Alors ça, c'était une première observation, je vous dirais, qui m'a un peu étonnée, finalement, de voir à quel point c'est difficile d'espérer et c'est pas naturel, si
oui,
vous voulez.
Oui, et d'ailleurs, on le voit peut-être aussi dans un certain désengagement, je dirais, rapport à toutes les sphères que vous venez de nommer. Hein, on se désengage comme citoyen.
Parce qu'on n'a pas la conviction que ça va changer quelque chose, justement. Mmh. J'ai vu aussi, peut-être plusieurs d'entre vous avaient pu regarder ce film, celui de Bernard Raymond.
Oui, hein? Alors
Contre toute espérance.
Voilà, oui.
Voilà. Mm-hmm. Un très beau film, très parlant, je dirais très intériorisé sur la question. Un film qui n'est pas du tout superficiel, mais à la fin du film, je me suis posé la question, quelle est l'espérance de ce film-là, ou qu'est-ce qui cherche à se dire de l'espérance? Et je suis ressortie de ce visionnement-là plutôt avec l'impression qu'il n'y en avait pas.
Ah, qu'est-ce que ce n'était pas un film sur l'espérance?
que c'était plutôt un film sur l'impossibilité d'espérer, finalement.
Ah, oui. Hein,
parce que l'issue, ce qui arrive au personnage est complètement désarmant, triste et sombre. Hein, et à la fin, hein, on se retrouve complètement démuni devant un avenir. Est-il fermé? Est-il ouvert? On ne le sait pas, mais il n'y a rien de... C'est sûrement pas un roman à l'eau de rose, en
non,
tout cas.
Non, non, non.
Et on n'est pas avec des pâquerettes et des petites fleurs. C'est très réaliste, hein, et ça se veut d'un réalisme pragmatique.
Ah oui, et c'est peut-être en ce sens-là un miroir de la société, finalement. Bernard Raymond a peut-être dépeint ce que vous voyez vous-même. Hein?
En lisant les critiques sur son roman, sur son film, pardon, hein,
oui.
C'est un peu ce qui semble ressortir. Et ça me fait passer à une troisième observation, justement. Combien c'est important pour les gens de notre entourage, si vous voulez, actuellement, on dirait qu'il y a une certaine valeur à ce pragmatisme.
Ah oui.
Hein? On n'aime pas, justement, des fins à l'eau de rose. On n'aime pas des histoires qui finissent toujours bien. On n'aime pas hein, que les gens aient l'air rêveurs ou utopiques. Ou
romantiques.
Ouais. Non, non. Uh-huh. Il faut que ça soit très réaliste, très concret, très pragmatique. Ouais. Hein? Mm-hmm. Comme si, consciemment, on fermait un peu l'horizon, finalement, mm-hmm. d'un autre paysage, d'un autre horizon. Hein? Et parfois, ça tourne au cynisme. Ce n'est pas le cas du film de Bernard Raymond, mm-hmm. mais parfois, on va aimer ce genre de critique cynique hein, de ce qui se passe dans le fond, dans le monde, dans ce qui nous entoure.
Oui. Est-ce que vous êtes capable de nous dire à quoi on peut attribuer ce cynisme-là dans la société moderne?
Peut-être que le fait que nous soyons moins... Hein, nous sommes plus dans une société qui se veut séculière, mm-hmm. qui se veut... Mm-hmm. Hein, qui ne veut... Non pas qu'il ne veut pas, mais qu'il ne sent pas le besoin autant d'être lié au transcendant ou d'être en lien avec Dieu.
Ah, voilà. Hein?
Mm-hmm. Peut-être que ça a ce reflet, ce miroir qu'on se dit, ben on veut s'arranger avec ce qui se passe ici et maintenant, dans ce monde, dans cette réalité qui nous est plus tangible. On devient peut-être un peu moins attentif ou peut-être un peu plus aveuglé à ce qui pourrait dépasser l'immédiateté du réel.
Mm-hmm. Hein? Non, c'est bon. Mais j'imagine que vous faites une lecture peut-être un peu pessimiste là, de la réalité, mais peut-être que vous envoyez des signes d'espérance d'un autre côté.
Bien, tout en restant réaliste,
oui.
puisque c'est
uh-huh.
une valeur de notre entourage.
Oui.
Alors, je parlais aux étudiants de cette réalité, que c'était difficile d'espérer, et étonnamment, et ça m'a fait sourire, je me promenais dans le métro cette semaine-là et je me suis mis à voir toutes sortes de publicités qui utilisaient le mot espoir, espérance.
Ah oui. Puis vous en avez trouvé?
J'en ai trouvé.
Oui.
Dans la revue Métro, par exemple,
oui.
qu'on obtient le matin. Alors, des publicités... Hein, on parle de fondations, par exemple, qui œuvrent pour des personnes plus dans le besoin ou pour des causes ou pour des situations particulières. Le journal Métro faisait allusion aussi à des situations mondiales. On regarde ce qui se passe actuellement, on est au printemps, on est en 2011, on regarde ce qui se passe en Libye, dans tous les pays arabes, en Égypte, dans d'autres pays aussi où il y a une espèce de tumulte. Ça m'étonne à chaque fois de voir sur les médias, par exemple, comme Google ou sur mm-hmm, Yahoo, mm-hmm. Hein, les grands titres sont souvent avec le mot espoir.
Ah, oui,
espoir
hein?
en Libye. Ah. Espoir au niveau d'une meilleure organisation politique ou d'une, mm-hmm. d'un succès qui ne passe pas nécessairement par la violence, évidemment, mais qui fasse voir un avenir meilleur. Même chose pour la situation au Japon. On vient de vivre le grand tremblement de terre, le séisme, le tsunami, mm-hmm. La menace nucléaire. Et encore ces derniers jours, on voyait des titres espoir.
Ah oui.
Espoir. Je vois aussi, par exemple, j'ai l'occasion de lire une chronique que nous envoie un frère dominicain du Japon
oui.
depuis quelques jours.
Hein?
Et c'est fascinant, c'est beau, c'est profondément parlant de voir combien à travers la détresse du quotidien,
oui. hein,
la difficulté à avoir de l'eau, avoir un peu de quoi manger, l'impossibilité d'avoir des journaux, des nouvelles, pas d'électricité, des magasins vides, des rues encombrées de toutes toutes sortes de choses. Donc, la difficulté très concrète de vivre au quotidien et en même temps, dans ses chroniques, des gestes de fraternité, de solidarité, d'amitié entre les personnes localement, mais aussi, justement, par ses communications Internet ou par des messages téléphoniques ou par une solidarité outre-mer, hein, à travers le monde. On pense au grand mouvement, justement, pour aider quand il y a des levées de fonds, mais aussi au niveau de la communication d'une solidarité. Humaine, des chaînes humaines qui se lèvent parfois pour dire haut et fort que l'humain en vaut la peine. Et ça, c'est très beau.
Alors là, on envoie des signes d'espérance.
Absolument.
Avant d'aller plus loin dans notre réflexion sur l'espérance, il me semble qu'il serait important d'en donner une définition, je dirais, au simple point de vue humain. Là. Alors, comment vous définissez, vous, Hélène Champagne, l'espérance?
Je suis allée voir dans les dictionnaires, hein, c'est toujours notre première source.
Oui, oui.
Et puis, je trouvais ça intéressant. Ce que j'y ai trouvé, d'abord, l'espérance est définie comme un sentiment. Hein, d'abord comme un sentiment. Donc, c'est pas seulement quelque chose de rationnel. On ne fait pas seulement que vouloir espérer, mais on le vit aussi comme une émotion, comme un sentiment. Un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce qu'on désire. Donc, il y a plusieurs mots-clés là-dedans. Entrevoir. Donc, ce n'est pas voir avec assurance. Ce n'est pas être convaincu. C'est comme un entrefilet, comme un entre-deux, hein, comme délicatement.
Oui, parce qu'au fond, si on en avait la certitude, ça ne s'appellerait plus l'espérance.
Justement.
C'est ça, oui.
Comme probable, comme possible.
Ouais. Hein?
La réalisation de ce que l'on désire. Ouais. Et là, la dimension du désir est importante aussi. Le désir, c'est ce qui nous habite comme un manque, comme un vide, comme quelque chose qui nous fait aspirer à plus grand, à meilleur, à plus beau, hein, à nous développer, à nous déployer, pas seulement nous personnellement, mais avec d'autres, pour d'autres, on espère pour d'autres aussi, parfois, on désire que l'autre soit heureux, notre enfant, notre conjoint, notre famille, des gens qu'on côtoie, qu'ils soient dans des conditions meilleures. Alors, on espère, ça veut dire qu'on entrevoit comme probable que ce meilleur qu'on voudrait pour eux se réalise.
Oui. Donc, une première définition, l'espérance comme sentiment.
Voilà.
Oui. Et puis...
Alors, toujours en fouillant, je suis tombée sur un très bon livre de Louis Roy, au sujet du désir. Et Louis Roy parle de trois formes d'espérance. Trois formes d'espérance, l'espérance quotidienne, l'espérance religieuse et l'espérance chrétienne. Je lisais ça avec intérêt. L'espérance quotidienne, c'est ce que vous et moi faisons régulièrement. J'espère qu'il va faire beau demain pour aller prendre une belle marche avec des amis.
Oui.
J'espère, peut-être des jeunes espèrent qu'ils vont bien réussir leurs examens.
Oui,
on espère que la journée de travail va bien se passer, que la réunion va bien se terminer, qu'on va rencontrer des amis, que la soirée va être agréable, etc.
Oui.
Hein? Le quotidien qui nous fait avoir le goût de ce qu'on va vivre.
Oui, oui.
Donc, une espérance toute simple. Lorsque nous agissons, nous croyons que ça ira mieux. Espérer que, j'ai un mauvais rhume, ça va passer.
Oui.
C'est ça aussi l'espérance, bien sûr.
Oui, exactement.
Hein?
Oui.
Donc, nous nous engageons dans des projets, on s'engage dans toutes sortes d'activités et on espère que ça va porter fruit.
Oui.
On est encouragé à nous dépasser. Bon, j'espère que je vais pouvoir m'entraîner. C'est pas le cas, mais peut-être quelqu'un pourrait dire pour faire le marathon de Montréal.
Oui, oui.
Hein? On veut aller au-delà de soi-même.
C'est ça.
Nous persévérons quand ça va moins bien. Quand on persévère, quand on tient bon, hein, ça ira mieux. Demain, ça sera une autre journée, puis on recommence. Une espèce de philosophie de sagesse populaire qui nous fait continuer. Et c'est ça l'espérance quotidienne. L'espérance quotidienne, elle nous fait garder confiance. Il me semble qu'il y a un lien étroit entre la confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, et l'espérance.
Oui, donc l'espérance au quotidien, puis ensuite vous avez parlé de l'espérance religieuse.
Justement,
qui ouvre
le lien avec la confiance est là.
Oui, oui.
L'espérance religieuse, elle nous fait envisager de façon plus explicite, plus affirmée que j'ai confiance en quelqu'un, quelque chose, Dieu qui me dépasse.
Ouais.
J'ai confiance en un autre qui est plus grand que moi. L'espérance religieuse, c'est de prendre conscience et de réaliser que cette espérance qui m'habite, ce goût, hein, ou cette persévérance, ce goût d'aller plus loin, ou cette persévérance quand ça va moins bien, ben finalement, ça me dépasse.
Ah, oui.
Et je n'en suis pas la propre source. On dirait que ça vient de plus loin que moi.
Ouais, alors, comme si j'étais portée par quelque chose, comme vous dites, là, qui me dépasse et qui fait que je, dans mon quotidien, je peux plus facilement passer à travers les obstacles ou...
Exactement, exactement. Je suis portée. Oui. Je suis portée par cela. Oui. Et c'est ça qui me donne l'espérance. Quand je reconnais que je ne suis pas la source de mon espérance, là, je suis plus proche de cette espérance religieuse. Oui. Et quand je nomme cette source-là... Hein,
et puis ensuite, il fait une distinction aussi hein, entre l'espérance religieuse et l'espérance chrétienne.
Oui, il y a une différence. L'espérance chrétienne, elle doit être... d'abord quotidienne aussi. Hein? Ce n'est pas des cloisons, on n'est pas en train de réfléchir à une expérience en silo.
Non, non.
Donc, l'expérience chrétienne, elle a aussi cette caractéristique d'être quotidienne, elle a aussi cette caractéristique d'être religieuse, mais elle a une couleur, une profondeur, une dimension particulière, et j'aurais le goût de laisser la question en suspens et d'y revenir un peu
oui,
plus tard.
Oui, parfait. quand on parle de l'espérance, on a plutôt tendance à penser qu'elle se pense pour l'avenir, l'espérance.
Oui.
On espère en vue de quelque chose qui n'est pas encore là. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce que l'espérance, c'est pour toujours plus loin?
C'est pour plus loin, bien sûr, parce qu'on regarde en avant. Il y a un horizon d'ouvert. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'espérance, elle est liée au temps, et non seulement au temps de l'avenir, mais au passé et au présent. L'espérance, elle nous fait regarder l'avenir, mais elle est enracinée dans notre expérience du passé. Si j'espère, c'est parce que j'ai déjà vécu quelque chose qui me permet d'espérer ou qui me demande d'espérer. Hein? Donc, notre espérance, elle est enracinée dans notre histoire. Non seulement notre histoire personnelle, mais une histoire collective aussi.
Oui, oui. Donc, j'espère, par exemple, guérir parce que je sais ce que c'est que la santé et donc je me projette dans l'avenir, mais tout en considérant mon passé.
Hein? Oui, d'une certaine manière. Oui. Parfois, on espère parce qu'on sait qu'on a déjà passé au travers.
Exactement.
On sait qu'on a déjà traversé des moments difficiles et ça nous donne du courage pour traverser l'adversité ou le malheur qu'on vit au présent. D'autres fois, on sait qu'on a passé des moments difficiles, mais celui qui est au présent nous dépasse un peu. On n'a pas vécu d'expérience semblable, mais on va quand même s'appuyer sur qui on est, sur ce qu'on a déjà vécu pour essayer de le traverser. Et quand ce n'est pas possible, parfois on vit des événements tellement tragiques qu'on a l'impression qu'il y a un avant et un après et on ne se reconnaît plus. Il y a comme un fossé entre ce que nous avons été et ce qui nous arrive maintenant.
Ouais,
et on le ressent douloureusement justement parce qu'on ne peut pas s'enraciner dans notre passé pour trouver comment avancer. Hein? C'est ça qui nous est douloureux. Il y a une belle phrase que j'ai trouvée qui parle d'espérance et qui vient du Talmud, donc de cette belle tradition juive qui nous est très proche finalement, ou très qui est nos racines, disons.
Oui, exactement. Hein?
Alors, cette phrase disait « Souviens-toi du futur. Souviens-toi. » On fait référence au passé habituellement.
Mais oui.
« Rappelle-toi qui tu es et rappelle-toi du futur. » Donc, rappelle-toi peut-être qu'il y a un futur ou rappelle-toi peut-être hein, qu'on est tourné vers l'avant, mais rappelle-toi du futur, donc peut-être d'une promesse, peut-être de quelque chose qui s'en vient. Hein. Il me semble que c'est une belle façon d'exprimer l'espérance. Et comme on sait, les phrases de sagesse juive et en particulier du Talmud sont pleines d'une ambiguïté volontaire qui fait qu'on ne peut jamais les déployer complètement. Ouais. Alors je pense que d'autres pourraient la commenter plus richement que moi. Un autre commentaire par rapport au temps et à l'espérance, c'est vraiment que l'espérance, on la vit au présent. On est enraciné dans notre passé, on espère quelque chose pour l'avenir, mais concrètement, le sentiment d'espérance et la réalité de ce qui se vit peut-être de difficile ou de désir, ben, c'est au présent, c'est maintenant que ça se passe.
Au fond, ça se passe maintenant parce que maintenant, on est insatisfait. N'est-ce pas?
Oui, parce que maintenant, il y a un manque, il y a un vide, il y a quelque chose qui demande à être...
Comblé, parce qu'on n'est pas entièrement heureux maintenant, c'est
exactement.
Ça au fond.
Oui, oui. Le présent, donc c'est aujourd'hui qu'on espère. Et l'espérance, bon, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Lévinas.
Oui, hein, oui.
Il disait, le temps nous mène quelque part. Mm. Et ça aussi, ça me parle d'espérance. Le temps est au présent, mais c'est un présent en marche. C'est un présent en route.
Oui.
C'est un présent en mouvement, hein, qui nous mène quelque part. Augustin, déjà, le grand Augustin, hein, disait, le présent de l'avenir, hein, c'est l'attente.
Ah oui, hein.
Comment l'avenir se rend présent à notre expérience, c'est quand nous attendons, nous espérons.
Oui.
Vous savez, j'avais entendu, je n'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est juste, dans certains groupes de francophones, au lieu de dire « je t'attends », on dit « je t'espère ».
Ah oui, hein, c'est une belle expression.
L'espérance, finalement, c'est aussi, puis on l'a mentionné tout à l'heure, l'avenir qui fait irruption dans le présent. Il y a quelque chose de l'avenir, il y a quelque chose de ce qui est devant nous, qu'on attend, hein, qui
Mais
arrive.
Tout à l'heure, nous avons parlé de désir, hein, de ce qu'on attend, parce qu'il y a un manque. Donc, on parle forcément de souffrance à ce moment-là. Quel lien faites-vous entre la souffrance et l'espérance?
Mais justement, si on espère, c'est qu'on n'est pas comblé, on n'est pas parfaitement heureux.
Mm-hmm.
Et puis, est-ce qu'on peut jamais l'être? On l'espère, justement.
Mm-hmm.
Mais il y a toujours quelque chose qui nous laisse insatisfaits. On voudrait toujours aller plus loin, on voudrait toujours plus. Il y a une part peut-être parfois d'ambition, mais peut-être que nous sommes faits comme cela aussi.
Oui.
Hein? Mm. Peut-être que quand nous sommes croyants, nous disons que Dieu nous a fait à son image. Mm. Alors, dans le langage des croyants, ben, on a cette place pour l'infini en nous.
Oui.
Et l'infini, nous la ressentons parfois comme un vide, comme un espace à remplir, à combler, qui permet la rencontre avec l'autre, mais parfois qui nous fait drôlement souffrir, qui nous fait profondément souffrir.
Mm-hmm.
Parler d'espérance, il me semble que c'est être attentif. On ne peut pas parler d'espérance sans être attentif à la manière dont on parle de la souffrance.
Mm-hmm.
Peut-être tout à l'heure, on parlait du réalisme pragmatique.
Oui, oui.
Et c'est tellement important parce que justement, quand on est au fond de la peine, quand on est vraiment dans la douleur, dans la souffrance, quand on vit des événements dramatiques, on ne veut pas se faire dire n'importe quoi, n'importe comment.
Non.
Hein? Et on ne peut pas se faire dire « fais-toi-en pas, ça va passer à ce moment-là. »
Non.
Il y a des situations où cette phrase-là est tout à fait à propos. Mais dans la situation de souffrance, de douleur, dans des situations de crise, dans des situations de détresse, hein, c'est absolument mal à propos, malvenu de minimiser l'impact.
Oui, ou de banaliser.
Et justement. Oui, oui. Et l'espérance ne peut pas être une fuite non plus.
Mm-hmm.
Hein?
Mm-hmm.
Et donc, on doit tenir compte du réel, du poids de cette souffrance et tenir ensemble à la fois hein, cette expérience difficile et l'espérance. Et ça, c'est un défi. L'espérance, elle reste possible, mais en même temps que la souffrance est inacceptable.
Ouais.
On a deux paradoxes en même temps qu'on doit garder, tenir ensemble, et c'est parfois inconfortable.
Oui, oui, oui.
Hein? Parfois, des gens me disent « oui, mais la souffrance nous apprend ceci, cela ». Non, moi, j'insiste et je redis à mes étudiants, aux gens de mon entourage, non, la souffrance ne nous apprend rien.
Non.
La souffrance, c'est quelque chose qui nous est extérieur, c'est un objet à quelque part, on pourrait dire, hein, dans le langage. Là, hein. La souffrance n'a pas de volonté, elle n'est pas un professeur. Non,
elle n'a pas de sens en soi.
Absolument pas.
Non, non.
Non, hein? Mm-hmm. Elle est, et nous, à quelque part, nous la subissons.
Oui.
Mais la façon dont nous la vivons, justement, est-ce que nous allons la subir comme une victime? Et parfois, c'est le cas, on n'a pas le choix.
Mm-hmm.
Mais comment nous allons traverser cette souffrance et comment nous allons nous-mêmes, comme humains, comme personnes humaines, dignes, le plus possible debout, y répondre?
Mm-hmm.
Et ça, c'est notre parole personnelle de sujet. Parfois, on a besoin d'être à plusieurs. Pour cela, on a besoin d'être avec des proches, avec des personnes qui nous aiment pour être capable de répondre à la souffrance, de lui donner sens. Mais la souffrance n'a pas de sens, elle est inacceptable.
Mm-hmm. C'est en fait c'est nous qui donnons un sens à la vie, hein, finalement.
Oui. Mm-hmm. Oui. Et ce sens-là est peut-être lié aussi à cette capacité d'espérance. Mm-hmm. Quand je suis pas capable de faire sens de ma souffrance ou de ma vie, peut-être que c'est parce qu'il y a cet espace ouvert pour quelque chose de possible, quelque chose que je ne peux pas décider d'avant, je vais espérer, non. Mais comme on se laisse une porte ouverte et on se dit « et si, mm-hmm. et peut-être hein? ». Mm-hmm. L'espérance... on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas une recette facile, c'est pas une illusion, ce n'est pas une fuite. Mm-hmm. Hein. Puis en même temps, c'est une sorte de courage, mais on l'a dit, qui ne vient pas de ma volonté. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui vient du fond de nous-mêmes, qui nous est aussi donné. Ça nous fait parler du lien entre l'espérance, la confiance et finalement la foi.
Ouais.
Hein? Et si cette espérance est possible, c'est souvent parce que nous sommes entourés ou parce que nous aimons nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, la foi, l'espérance, la charité, les trois sont liés hein, et on pourra y revenir.
Oui. Vous aimez beaucoup, Hélène Champagne, le poème de Charles Péguy sur l'espérance. Qu'est-ce que vous aimez de ce poème-là et pourquoi l'avoir choisi?
Je l'aime beaucoup pour sa fraîcheur. Une fraîcheur étonnante, peut-être, qui contraste un peu avec le réalisme un peu froid, peut-être, dont on a parlé tout à l'heure. Je l'aime parce que on fait dire à Dieu hein, quelque chose sur l'espérance, et c'est un peu audacieux. Les gens d'aujourd'hui diraient, bon, d'abord, comment on peut savoir oui. ce que je dis? On comprend que c'est poétique,
oui.
mais ça nous dit quelque chose de ce qui nous dépasse.
La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Ça, c'est étonnant que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonnée moi-même. Il faut, en effet, que ma grâce soit d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source et comme un fleuve inépuisable. La petite espérance s'avance entre ses deux grandes sœurs, et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre ses deux sœurs, la petite espérance s'avance. C'est elle, cette petite, qui entraîne tout. Car la foi ne voit que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La charité n'aime que ce qui est, et elle voit ce qui sera. La foi voit ce qui est dans le temps et l'éternité. L'espérance voit ce qui sera dans le temps et l'éternité, pour ainsi dire dans le futur de l'éternité même.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Madame Hélène Champagne, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains. Alors, nous parlons d'espérance. Hélène, nous avons parlé du paradoxe de l'espérance à la fois pas très à la mode et en même temps que l'on reconnaît partout. On a défini l'espérance. Vous nous parliez de cette espérance quotidienne, religieuse, et vous nous réservez l'espérance chrétienne pour un petit peu plus tard. De l'importance du temps hein, comme caractéristique de l'espérance. L'espérance enracinée dans l'expérience, l'espérance qui se vit au présent, l'espérance qui appelle l'avenir aussi. Parlons maintenant de, si vous le voulez bien, de l'espérance comme vertu. Alors, on a parlé pendant longtemps, certains vont reconnaître cette expression-là, on a parlé de l'espérance comme vertu. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance comme vertu?
peut-être d'abord faire un petit rappel historique.
Oui.
Et quand on regarde pour trouver des informations sur l'espérance, il y a beaucoup qui a été écrit avant 1960.
Oui, donc avant le Concile Vatican II.
Exactement. Mm-hmm. Et dans la tradition de l'Église, dans cette longue tradition de plus de 2000 ans, hein, on utilise ce mot-là dans le contexte où on va toujours le mentionner comme une vertu.
Oui.
Donc, dans un cadre, dans un système de pensée, de philosophie, finalement, particulier. Et là, je regarde ici, qu'est-ce que peut être une vertu?
Oui, oui.
Ah, on n'utilise pas le mot très souvent. Voilà. Donc, on a ici comme définition disposition stable à agir bien.
Oui.
Selon ce qui nous rend humains, selon ce qui fait que nous sommes hommes, femmes.
Oui.
Donc, une disposition à agir bien. C'est ça la vertu. Donc, on a tout, dans l'histoire de l'Église, on a tout un vocabulaire, on a des démarches spirituelles, on a des enseignements, on a des exercices pour développer les vertus.
Oui.
De telle sorte qu'on puisse agir bien.
Oui.
Hein?
Agir comme humain.
Voilà.
Hein? Ce qui nous différencie finalement de l'animal.
Absolument.
Oui, oui.
Et ce qui fait que l'humain, je m'en allais dire dans son expression la plus belle, la plus vraie,
oui.
mais la plus noble aussi.
Oui, oui, hein? oui.
Quand on dit être vraiment humain. Et quand on parle de vertu théologale, donc l'espérance est une vertu théologale dans cette façon de voir les choses. Et les vertus théologales nous mettent en relation avec Dieu. Et en même temps, elles sont considérées comme grâces, c'est-à-dire qu'elles sont aussi dons de Dieu. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on parlait de l'espérance religieuse qui reconnaissait qu'elle nous venait d'au-delà de nous, qu'elle nous était donnée finalement. Alors, l'espérance est cette vertu théologale qui nous vient d'au-delà de nous, qui nous vient de Dieu. Les vertus théologales, il y en a trois, on les a mentionnées rapidement tout à l'heure. Donc, l'espérance, la foi et la charité.
Oui.
J'aurais le goût de vous dire, les trois vertus, je les comprends quand on lit encore une fois les textes de la tradition, ce sont les trois piliers de la vie du chrétien.
Oui, en quel sens?
Parce que on les a développés comme des repères, des phares à développer, à sur lesquels s'appuyer pour sa vie de foi, pour sa vie humaine. Et comme chrétien, qu'est-ce qu'on voudrait développer? Ben une vie plus charitable, plus aimante, les uns envers les autres. Le plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres. Mais on sait que cet amour, il est difficile seul. Pour pouvoir aimer, on a besoin de l'aide de Dieu et on a besoin de s'appuyer sur Dieu, de faire confiance à Dieu, on a besoin d'être en relation avec Dieu, en rencontre avec Dieu et ça, ce n'est possible que par la foi qui est aussi don. Mais cet accomplissement humain par l'amour, par la foi, pour qu'il puisse se vivre, ben il faut aussi pouvoir l'espérer. Et pour pouvoir aimer l'autre, on a besoin d'espérer aussi que l'autre puisse être vibré à cet amour qu'on veut lui offrir et peut-être répondre aussi de sa propre humanité, donc en aimant lui ou elle aussi. Donc les trois vertus sont comme en écho les unes avec les autres. L'amour nourrit l'espérance. Quand j'aime quelqu'un, ben je peux, ça le soutient, ça peut lui donner courage, ça peut lui donner de l'espérance pour passer au travers. L'espérance peut aider ma foi. Si je ne suis pas trop certaine, est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je crois pas, mais comment ça se fait que Dieu me répond pas, puis là je passe un bout difficile, j'ai l'impression d'être dans le noir, mais il y a comme une espérance qui m'habite, j'ai pas de réponse, mais je vais continuer. Même si je n'ai pas de réponse satisfaisante dans ma foi, j'espère encore et j'espère en ce Dieu avec qui je suis en relation. Donc, il y a cette espèce de lien étroit. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des sœurs entre l'amour, l'espérance et la foi.
Et même, je dirais qu'au plan strictement humain, quand on espère en l'autre, c'est une forme d'amour.
Absolument.
Alors, nous sommes donc au temps avant Vatican II où on parle donc d'espérance comme une vertu. Dans cette perspective-là, il me semble que on parlait d'espérance au sens de vie éternelle, si je me trompe pas, de vie après la mort. Il me semble que à ce moment-là, que l'espérance se réduisait à quelque chose qui n'était pas du présent, qui était ailleurs. Est-ce que je me trompe?
Peut-être que se réduire, c'est beaucoup.
C'est de réduire.
Mais en même temps, vous avez raison, l'accent était vraiment sur l'au-delà. Mais aussi ce regard d'un monde qui est mauvais, puis on espère que ça sera mieux ailleurs. Ailleurs, dans l'au-delà, ailleurs dans la vie éternelle. Et à ce moment-là, dans le langage des spécialistes, on appelle ça l'eschatologie. Non pas une fin du monde épeurante et catastrophique, mais une fin du monde justement où est-ce que les malheurs, les situations difficiles vont être résolues. On sera ailleurs, on sera enfin délivré de cette situation terrestre où les choses ne tournent pas rond.
Au fond, on se consolait de sa vie malheureuse avec l'espérance d'une vie après la mort, finalement.
Oui, et ça a été questionné, ça. Ça a du bon parce qu'effectivement, on espère que l'horizon n'arrête pas tout de suite avec notre mort. Donc, c'est très positif. Mais poussé à l'extrême, il peut y avoir cette dérive, comme vous avez dit, que finalement, peu importe ce qui se passe ici, c'est pas grave parce que ça va être ailleurs que ça va se régler. Et puis, on finit par fuir, ne pas s'engager dans ce qui se passe actuellement parce qu'on se dit que ça va se régler ailleurs.
Nous sommes en compagnie de Mme Hélène Champagne, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains.
Autrefois, on disait que comme chrétien, on espérait la vie éternelle.
Oui.
Puis les gens aujourd'hui, spontanément, vont dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. On a du mal avec ça. On ne sait plus qu'est-ce que c'est. » Bon, alors moi, je pose à mes étudiants et je pose la question « Qu'est-ce qu'on espère de plus profond? Quel est notre désir le plus authentique, le plus vrai, le plus caractéristique de ce que nous sommes véritablement?
Ouais.
Qu'est-ce qui va nous chercher? Bien sûr que je désire aller faire une belle marche ce soir et puis rencontrer des gens sympathiques. Mais ça, c'est passager.
Oui. Hein?
Dans la vérité de qui je suis, quand je travaille, quand je cherche à faire sens de qui je suis.
Donc, plus profondément, là.
Absolument. Quel est le désir le plus profond qui m'habite? À quoi j'aspire de plus authentique? Et il me semble que là, on a des pistes pour travailler encore l'espérance. Et qu'est-ce qu'on espère comme chrétien sans rapport avec ça? Est-ce qu'on espère le bonheur? Est-ce qu'on espère la paix? Est-ce qu'on espère la sérénité? Est-ce qu'on espère la justice? Et puis, une fois qu'on arrive à nommer un peu plus ça, on peut se dire, par exemple, si je cherche la paix, par exemple, dans le Nouvel Âge ou dans les livres sur le secret ou dans ce qu'on peut lire en spiritualité actuellement, pas toujours chrétien, mais on a l'impression que la paix est envisagée comme une sorte de sérénité qui nous garde au-dessus de la mêlée. Mais parfois, quand on nous dit, bon, d'être attentif à son corps, de bien respirer, de bien méditer, de bien manger, tout ça, c'est tout positif, tout ça.
Et
effectivement, ça nous aide à avoir un meilleur équilibre de vie. Mais si l'objectif, si le désir profond, c'est de pas se laisser atteindre par ce qui arrive alentour de nous, par notre entourage, par les soucis de notre voisine, par les téléphones de notre famille, si c'est d'être au-dessus de la mêlée puis de survoler par-dessus tout ça paisiblement comme sur un petit nuage, il me semble qu'on n'est pas enraciné, qu'on est un peu décroché du réel, justement.
Oui, oui. On s'éloigne peut-être du désir dont vous parliez tout à l'heure.
Justement.
Oui.
On est plus, peut-être, menacé de fuite.
Oui, hein? C'est ça. Oui.
Alors, notre espérance comme chrétien, ça ne pourrait pas tenir la route, qu'elle soit une fuite.
Oui, oui. Ah,
j'aurais le goût de vous dire aussi que aujourd'hui, c'est important de le nommer pour soi. Tout à l'heure, je vous parlais de la grande tradition.
Alors, vous dites le nommer pour soi, vous parlez du désir?
Oui.
Oui, donc de le nommer pour soi.
Oui, cette orientation-là, hein, vers laquelle nous mène notre espérance, on pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on espère comme chrétien, hein? On pourrait dire, aujourd'hui, dans la sensibilité contemporaine, on a besoin de nommer chacun pour soi quelle est notre espérance, notre désir.
Oui.
Alors qu'autrefois, je reprends les années d'avant 1960, c'est un chiffre,
un repère,
si vous voulez.
Oui, oui.
On était plus attentif ou sensible à cette dimension collective.
Oui.
Alors, peut-être que les gens s'interrogeaient moins personnellement, mais on avait des propositions qui pouvaient rejoindre les groupes, la masse. Si
oui, alors que ce que vous dites, en fait, là, c'est que le langage des croyants est différent, change, se transforme.
Absolument.
C'est ça, oui.
Et qui fait qu'on a besoin de dire la foi pour soi-même. On a besoin d'être capable de l'articuler dans nos mots.
Oui.
On a besoin de la comprendre.
Oui, hein?
On a besoin de ne pas prendre les formules toutes faites, mais de réussir à expérimenter dans nos vies ce que ça signifie. Et c'est vrai aussi pour l'espérance.
Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que la dimension eschatologique dont vous parliez tout à l'heure, là, de l'espérance, a été supplantée par... par cette autre dimension de l'espérance qui est plus personnelle ou...
C'est certainement un accent pour aujourd'hui.
Mm-hmm.
Hein? L'accent pour aujourd'hui
va
beaucoup moins dans l'au-delà que dans cette capacité à juger par soi-même, à faire des choix, à participer activement à ce que je deviens, à ce que nous devenons, à être un peu plus maître de notre existence, même si on ressent bien, on sent bien, puis on expérimente bien que ça a ses limites.
Oui,
nous restons limités, nous restons des êtres, on peut dire, contingentés.
Oui, oui.
On n'est pas infini.
Non.
Nos possibilités ne sont pas infinies, même si elles sont très grandes et parfois elles nous étonnent. Mais en même temps, nous sommes des êtres qui vivons dans le temps, dans l'espace, avec des conditions spécifiques, particulières.
Oui, mais en même temps, vous dites, on est invité là, à se retrousser les manches et puis à prendre notre destin en main, finalement.
Oui, mais non seulement je le dis, mais je fais écho aussi à la mentalité actuelle, dirais, plus présente. Et tout à l'heure, nous avons parlé du film de Bernard Raymond.
Oui, oui.
Je ne veux pas raconter l'histoire pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, mais en même temps, c'est l'histoire d'un couple qui a à vivre des drames l'un après l'autre, ça se succède et vraiment, c'est très difficile pour eux. Et je suis frappée parce que cette dame, elle cherche à s'en sortir, mais par elle-même.
Oui.
J'ai vu beaucoup de solitude dans ce film-là.
Oui.
Il y a des intervenants sociaux du milieu hospitalier, d'ailleurs, qui pourraient peut-être contribuer à les soutenir d'une manière ou d'une autre, mais ça en reste toujours à un langage de sourd.
Oui.
Et chacun reste un peu dans sa bulle. Et il y a des perches qui sont tendues, mais jamais, il y a pas de solidarité dans ce film-là. Il y a l'amitié d'un ami qui va être là jusqu'à la fin.
Oui, oui.
Puis en même temps, qui se retrouve impuissant devant tout ça. Et Jeanne va avoir, je l'appelle Jeanne, mais je ne suis pas certaine de son prénom.
Oui, oui.
Mais enfin, cette femme va avoir des gestes un peu dramatiques à la fin. Mais en même temps, elle va y aller de son désespoir, dans des gestes ultimes et tragiques, mais vraiment pour essayer de s'en sortir par elle-même.
Mm-hmm.
Et il me semble que c'est ça qui me parle de la désespérance du film, cette persistance à essayer de s'en sortir jusqu'au bout par soi-même.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui manquerait alors à l'espérance pour qu'elle soit une expérience spirituelle vécue de manière bonne, de manière positive, justement pour le bonheur de l'être humain?
Il me semble que tout à l'heure, on a parlé du lien entre l'amour, l'espérance et la foi.
Oui.
Sans tomber dans le simplisme, hein, sans tomber dans des explications simplistes, je dirais, on a besoin les uns des autres.
Oui.
Hein? Comme chrétien, mais comme personne humaine, d'abord. Mm-hmm. Pour être capable d'espérer, ben, il faut être capable d'être avec les autres. Hein? Mm-hmm. De pouvoir penser non seulement à soi comme individu, non seulement à des personnes proches, par exemple, qu'on voudrait aider, mais de penser que nous ne sommes pas seuls et de chercher à faire des liens, à être en lien, à se vivre en lien. Il me semble que la vie spirituelle, c'est justement de se vivre en lien avec soi, en lien avec les autres, en lien avec celui, celle, Dieu qui nous dépasse infiniment. Alors, nous garder en lien avec notre entourage, notre environnement.
Au fond, l'espérance n'évacue nullement la solidarité ou la présence de l'autre. Au contraire, elle inclut l'espérance, ce lien-là avec l'autre.
Et elle l'inclut tellement que c'est ça qui fait notre tissu humain.
Oui.
Hein, notre tissu humain, on n'est pas des atomes isolés. Oui. On est des personnes en lien, en réseau, en contact les uns avec les autres. Parfois difficilement, mais ça fait partie de ce que nous sommes comme humains, d'être ensemble.
Oui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle là, vous disiez que ce film de Bernard Raymond, Contre toute espérance, ne parle pratiquement pas d'espérance, puisqu'elle essaie justement, cette dame, de s'en sortir seule.
Peut-être que c'est ce qui fait l'impasse du film.
Oui.
C'est ce qui fait que l'espérance devient impossible, finalement, d'une certaine manière. Mm-hmm. Et je pense que on a parlé des années qui ont précédé Vatican II. Mm-hmm. Dans les décennies, les dizaines d'années qui ont précédé 1960, il y a des théologiens qui ont commencé à s'interroger sur cette question de est-ce que la façon dont nous présentons la vie spirituelle et l'espérance, en particulier, hein, tient suffisamment compte de cette solidarité.
Ah, donc on a senti le besoin de repenser l'espérance.
Absolument. Oui. Et de tenir plus compte de la vie humaine, de cette expérience incarnée que nous avons de vivre sur Terre les uns avec les autres, avec les défis que ça pose, mais aussi avec les grandes richesses que ça porte.
Oui, hein? Oui. Puis à quoi attribuez-vous ce changement-là ou ce nouveau besoin tout à coup que les théologiens ont senti de repenser cette
Il y a eu des facteurs qui se sont retrouvés ensemble, je dirais.
Oui.
Je ne sais pas si c'était par hasard, mais enfin, des éléments de l'histoire qui se sont croisés.
Mm-hmm. Hein?
Il y a d'abord toute cette découverte de ce qu'on a appelé le Jésus historique, ou en tout cas la recherche, la quête du Jésus historique.
Mm-hmm.
Hein? On est passé d'une image, d'un visage de Jésus le Christ comme Dieu, hein, mm-hmm. où l'accent était beaucoup mis sur cette dimension de Dieu.
Mm-hmm. Hein, Dieu tout-puissant.
De Dieu qu'on voyait beaucoup tout-puissant, justement,
oui.
Hein, qui était au-dessus de la mêlée, qui était au-dessus de tout, qui dominait tout. Donc, cette représentation.
Mm-hmm.
Hein, et cette représentation d'un Jésus un peu comme ce qu'on voit dans Jésus de Nazareth, par exemple.
Oui, oui.
Hein, un visage toujours lumineux, un peu au-dessus de ce qui se passe dans la foule, mm-hmm. qui va lever la main avec... pas sérénité même, hein, avec un certain flegme presque,
oui.
Hein, et qui, d'une façon toute puissante, va régler les choses,
tous
va
les
guérir,
problèmes.
Donc, c'est une façon de se représenter Dieu. On peut se représenter Dieu d'autres façons. Les textes bibliques et cette recherche du Jésus historique, hein, au 20e siècle en particulier, nous a fait devenir plus sensibles à l'humanité de Jésus.
Ouais.
Et cette humanité qui finalement, et on est plus sensible à ça aujourd'hui, Jésus d'abord, hein, qui est dans une famille toute simple, hein, qui vit dans une certaine pauvreté, hein, qui mange, qui marche, qui boit, qui parle avec ses disciples, qui rencontre des gens, qui a une vie affective,
qui s'inquiète, qui pleure, qui a peur.
Donc, qui a une vie vraiment humaine.
Oui, oui, oui.
Hein? Et finalement, ça nous fait devenir encore plus sensibles à cette dimension d'incarnation et ça nous appelle, je pense, à être plus sensibles, justement, à nous aussi, à vivre plus enracinés, plus proches de nos frères et sœurs, hein, de valoriser cette vie humaine qui est la nôtre.
Mm-hmm.
Hein, non pas de valoriser les malheurs, bien sûr.
Non.
Et vous savez, toute cette réflexion-là s'est faite aussi dans le contexte de la guerre, hein, de la suite des deux grandes guerres. Ben, il me semble que dans le contexte, dans la réflexion, dans l'environnement dans lequel on était, les questions qui se sont posées justement sur ce visage de Dieu, est-ce que Dieu est présent à travers tout ça, hein, et quelle responsabilité nous avons comme humains dans ce drame-là qui s'est joué de façon... d'une cruauté qui avait été inégalée, hein, et comment nous pensons la personne humaine dans ce contexte-là, il fallait refaire ses devoirs.
Ah, c'est ça.
Il fallait refaire ses devoirs.
Et on les a fait, donc, à partir du Concile Vatican II, mais vous nous réservez, Hélène Champagne, une deuxième partie de l'émission sur l'espérance, que nous entendrons la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous voulez nous donner un petit peu un avant-goût de ce dont on parle la semaine prochaine?
Bien, je suis consciente que nous n'avons pas encore parlé de façon spécifique de l'espérance chrétienne, sinon par le biais des vertus. Alors certainement, c'est ce qu'on abordera.
Bien, alors, Hélène Champagne, je vous remercie de nous avoir parlé de l'espérance. Nous attendons cette deuxième émission avec espérance, pourquoi pas. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je remercie bien chaleureusement Madame Hélène Champagne. En plus d'être professeure associée à l'Institut pastoral des Dominicaines de Montréal, Madame Champagne est laïque dominicaine. Elle contribue régulièrement à la revue L'Humanité et parfois à Prions en Église. Elle est aussi l'auteur de Reconnaître la spiritualité des tout-petits, publié en 2003 chez Novalis et L'Humanité. Je remercie aussi Marc Chevary pour son soutien technique. Merci à René Cossette à la lecture du texte de Charles Péguy. Je remercie Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicaines de Montréal pour Radio Ville-Marie. Je vous rappelle que la semaine prochaine, Hélène Champagne reviendra à notre émission pour poursuivre cette réflexion sur l'espérance chrétienne. C'est sur un air donc de Georges-Philippe Telemann que je vous laisse et vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.